Bonsoir. Alors, merci d'être venus si nombreux ce soir. C'est qu'on attendait, au départ, on avait mis 30 chaises. On n'attendait pas autant de monde, mais je suis très contente. Je pense que le sujet du livre d'Arthur n'est pas... est pour quelque chose dans ce succès. Donc, en fait, c'est la première soirée d'un cycle de rencontres qui aura lieu tous les deuxièmes mercredis du mois à 19h, ici, dans l'espace presse, qui interroge, en fait, les évolutions des métiers de l'information, du journalisme. Par exemple, le mois prochain, on accueille un journaliste musical. Dans 2 mois, quelqu'un qui fait plutôt du photojournalisme. De voir comment les évolutions du métier très fortes avec Internet, mais aussi les permanences. Donc voilà, je vous invite à venir, à revenir. Et donc, pour ceux qui ne peuvent pas rester jusqu'à la fin ou qui ont des amis qui ne peuvent pas rentrer, je vous rappelle que la séance sera réécoutable et podcastable sur le site de la BPI à partir de la semaine prochaine environ. Voilà. Donc, je suis très contente ce soir d'accueillir Arthur Freyer-Lalex. Arthur, tu es donc journaliste indépendant. Et est-ce que tu peux dire à peu près qu'est-ce que ça recouvre par rapport à des journalistes qui sont en contrat de longue durée avec des journaux ?
Oui, bonsoir à tous. Oui, journaliste indépendant, c'est quelque chose d'un peu compliqué et d'assez excitant en même temps. Moi j'ai 32 ans, ça fait 8 ans que je suis journaliste. Et donc indépendant, c'est-à-dire que je bosse pour plusieurs rédactions en même temps. C'est-à-dire qu'il faut avoir 3, 4, 5 bulletins de salaire par mois. Je fais à la fois du reportage, c'est-à-dire que j'écris, je suis rédacteur, et je fais aussi du secrétariat de rédaction, à côté, dans d'autres rédactions. Je travaille en gros en 2 temps. Souvent, je vais faire sur la partie rédacteur. J'écris pour du news ou du magazine, plus exactement, c'est-à-dire pour les journaux style Le Monde. J'écris pour les sites internet style Street Press. J'en fais des papiers, j'en fais des reportages. Et cette matière, je la conserve aussi pour en faire des livres, ensuite. Donc souvent, c'est même l'inverse. J'ai d'abord une idée de livre, d'enquête, de terrain. Je sais que c'est une enquête qui va prendre 6 mois, 1 an. Et de cette enquête, il y a une multiplicité d'angles, d'histoires différentes à raconter. Et ça, c'est des histoires qu'on peut proposer à la presse, au magazine.
Et est-ce que tu dirais que, en fait, le fait d'être journaliste indépendant, c'est de plus en plus commun aujourd'hui, en 2016, par rapport au métier de journaliste, peut-être qu'il y a quelques dizaines d'années, qui était plus rattaché à un organe de presse, par exemple?
Oui, je pense que ça va évidemment se développer de plus en plus. On me demande souvent, est-ce que je l'ai choisi ou est-ce que je l'ai subi, journaliste indépendant? Je suis assez embêté de répondre. Tendance à dire un peu des deux à la fois, ou les deux. Plus exactement au début, c'était subi. Je suis sorti de l'école de journalisme, j'ai fait l'école de Strasbourg. Je suis sorti en 2008. J'avais vraiment dans l'idée au début un parcours de rattacher, être staff, comme disent les Anglais. Et puis c'était compliqué, ou en tout cas moi ce que je voulais faire du reportage, c'est-à-dire je préfère le terme de reporter à celui de journaliste, c'est-à-dire aller sur un lieu, sur un terrain et en rapporter les éléments. Plutôt que d'être devant mon écran internet et de mon écran d'ordi et de passer mon temps sur Google à faire de la veille sur Twitter. Ce qui n'empêche pas d'utiliser internet dans un second temps. Donc voilà, au début, c'était pas voulu. Et après, là, quelques années, j'ai plutôt trouvé mon équilibre. Et je suis pas certain d'aller faire du staff, à moins que ce soit de reportage. Je pense vraiment, j'insiste sur cette notion de reporter, pour revenir aux origines de ce métier, c'est d'aller voir sur place.
D'accord. Alors justement, comme on parle d'aller voir sur place, on va parler de ton dernier livre, donc Dans la peau d'un migrant, qui est sorti en octobre 2015 chez Fayard. Donc tous les livres qu'on présente ce soir, c'est des livres de la bibliothèque que vous pouvez consulter, qu'on laissera sur la table après la rencontre, si vous voulez venir les voir. Donc voilà, Dans la peau d'un migrant, donc c'est un travail très intéressant, où donc c'est un livre en 4 parties, où tu vas voir les différents endroits où se passent les migrations, où elles se conçoivent, où elles se font en cours, et peut-être où elles aboutissent, à Calais. D'où est venue l'idée de ce travail ?
Alors, j'aime bien, par nature, les sujets intemporels. Aujourd'hui, nos journalistes, on a toujours un agenda et on essaye d'y coller dans les rédactions, dans les télés, dans les magazines. on essaie vraiment de coller à l'agenda. Moi, j'aime ces sujets, les sujets plus structurels, un peu les lames de fond de la société, ce qu'on voit pas beaucoup. J'ai fait des études d'histoire, probablement été influencé par ça aussi. Et très longtemps, en faisant de l'histoire, jusqu'au 19e siècle, on faisait de l'histoire des grandes batailles, des grandes dates, des têtes couronnées, etc. Et depuis le 20e siècle, il y a l'école des annales qui, à l'inverse, raconte la société et l'histoire par le bas. L'histoire du mouvement ouvrier, de l'artisanat, de la finance. Et je trouve que dans le journalisme, moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est de raconter la société par le bas, beaucoup plus que par le haut. Il ne faut pas occulter le haut pour autant, mais disons que la parole d'un politique ne m'intéresse qu'en écho à une situation que je vois sur le terrain. Beaucoup plus du « Ah, telle politique a fait telle déclaration, allons faire un reportage pour voir ce qu'il en est. » Donc voilà, il faut renverser le phénomène. Du coup, j'ai oublié, pardon, le début de ta question.
Non, ma question, c'était simplement d'où venait l'idée de ce travail. Donc voilà, c'était de voir, c'est un peu ce que je te disais, c'est que j'avais l'impression que dans les reportages, par exemple, sur Calais, qu'il y a beaucoup en ce moment, quasiment tous les jours dans les médias, on donne beaucoup la parole, par exemple, à des hommes politiques ou à des personnes d'associations, relativement peu aux migrants. Alors après, c'est quelque chose qu'on peut nuancer. Mais est-ce que ton idée, c'était aussi un petit peu de donner la voix ou de donner à voir des choses qui étaient faites pour rester invisibles?
C'est de donner la voix à tout le monde. Je pense qu'il faut effectivement avoir cet écho, cet aller-retour entre le témoignage de migrants, le témoignage de politiques aussi, mais de policiers, de magistrats. C'est ça, c'est cet ensemble de travail de journaliste, c'est pas se focaliser sur un domaine particulier ou sur un type d'interlocuteur particulier. Et après, sur le thème des migrants, effectivement, avec notre point de vue de Français, d'Européens, on met derrière le mot migrant un peu tout et n'importe quoi. Ce qui est très intéressant, c'est d'inverser et de prendre le point de vue du migrant durant cette enquête. Quand je me suis retrouvé à Istanbul plusieurs fois, c'est très surprenant de voir les Africains qui n'ont aucune conscience des Syriens. Des Syriens qui n'ont aucune conscience des Afghans. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que derrière le mot migrant, il y a une logique. Les gens fonctionnent en communauté parce que c'est la communauté de langue qui permet de trouver un logement, de trouver du boulot, de trouver des passeurs. Et que ça, c'est fondamental. Et on a tendance, nous, on le gomme involontairement ou non, dans nos reportages, en disant simplement les migrants. On en reparlera peut-être un peu tout à l'heure, mais sur les questions de passeurs, par exemple à Calais, ça ne fonctionne quasiment que par communauté. C'est parce que vous parlez arabe que vous allez aller voir des passeurs qui parlent arabe. C'est parce que vous parlez kurde que vous allez vous orienter vers des kurdes. Il n'y a peut-être que les Albanais vers Calais qui, eux, sont multinationalités.
Oui, en fait, on va peut-être un petit peu... Alors, j'imagine que tout le monde dans le public n'a pas lu ton livre. Donc, je vais un petit peu en parler pour que vous voyez un petit peu l'originalité de la démarche d'Arthur. Donc, voilà, c'est un livre où tu as choisi à certains moments de ton parcours, de te faire passer pour un candidat à la migration. Donc le livre est en 4 parties. Au départ, tu es à Peshawar avec donc un Pakistanais un Afghan, que tu avais rencontré à Paris et qui t'a accompagné pour. Donc voilà, c'était un peu indispensable, j'imagine, d'avoir quelqu'un du coin pour t'aider, surtout que tu ne parlais pas persan. Ensuite, donc il y a une deuxième partie, c'est peut-être la partie centrale du livre justement. Tu en parles à Istanbul, où tour à tour tu te fais passer justement pour un migrant, par exemple, pour voir les conditions de logement des migrants à Istanbul. Et c'est ce que tu disais qui est très intéressant, c'est de voir comment les différentes communautés vivent dans des endroits séparés, s'ignorent, et parfois ont l'impression d'être les candidats les plus légitimes à l'exil par rapport à d'autres communautés. Ensuite, il y a un passage plus bref dans le temps, qui est ton passage de la frontière bulgare, donc en te faisant passer pour un migrant d'abord d'Azerbaïdjan et ensuite géorgien. C'est, tu essayais de trouver des nationalités où tu étais sûr d'avoir personne qui parlait la langue, c'est ça? Parce que si tu étais syrien, c'est, tu te faisais tout de suite avoir par les gens qui allaient te proposer des traducteurs arabes. Et enfin, la dernière partie, où là tu fais plus un travail de journaliste, enfin où tu te montres en tant que Arthur Fayer journaliste au tribunal à Calais, voilà où tu vois un petit peu comment on fonctionne. Alors ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que ces moments en fait différents de la migration, tu inspectes tout d'abord les causes un petit peu des candidats à l'exil à Peshawar. Et donc à Peshawar, tu es frappé par la difficulté de la vie en termes de la vie sur place, en termes de sécurité. Et tu questionnes du coup une notion qui est beaucoup utilisée en droit français européen, c'est la notion de réfugié politique par rapport à les migrants économiques. Voilà, on dit réfugié politique, migrant économique. Et en fait, ce que tu montres un petit peu, c'est que finalement, dans des villes comme Peshawar, dans des pays comme le Pakistan, où il y a deux attentats par semaine, la notion de migrant économique n'a pas vraiment de sens, puisque finalement, le fait de vouloir une vie meilleure est tout à fait autant légitime que si on était un opposant politique.
Oui, c'est exactement ça. C'est que la frontière aujourd'hui entre migrants politiques et économiques, elle est très floue. Elle a tendance à s'estomper. L'idée de réfugié politique, c'est né la Convention de Genève de mémoire, date de 61. Et c'était essentiellement pour deux choses. Pour les personnes, les juifs, qui n'avaient pas retrouvé de patrie, qui n'avaient pas de carte d'identité, et pour les dissidents soviétiques. On a eu toute une liste de critères pour octroyer le statut de réfugié politique. Ces critères, aujourd'hui, ne sont plus du tout opérants à notre époque, puisque la notion entre pays de mise en danger, comme on l'avait à l'époque, a disparu. Disons qu'on a beaucoup de pays aujourd'hui avec une situation de guerre de basse intensité. Ou, type Pakistan, mais il suffit de regarder le Mali depuis 5 ans, la Syrie, c'est presque une exception aujourd'hui, où il y a un état de guerre flagrant, très marqué, mais beaucoup de gens, de migrants qui tentent aujourd'hui de rejoindre l'Europe, c'est parce qu'il y a cette situation-là. Et je pense que c'est une des causes majeures qui pousse à l'immigration, c'est la corruption, vraiment. Parce que vivre dans un pays corrompu, ça empêche de se projeter dans l'avenir. C'est-à-dire que vous pouvez pas avoir votre licence à l'université si vous ne payez pas vos profs, pareil pour le master, pareil pour votre permis de conduire, pareil pour acheter votre maison, et ainsi de suite. Ce qui fait que ça crée une situation d'insécurité permanente qui pousse les gens à partir. Et donc voilà, cette frontière effectivement économique, migrant politique, elle n'a plus date aujourd'hui. Et je pense que, à l'inverse, aujourd'hui le Front National est très malin en parlant énormément de migrants économiques, et qu'en face, on s'interdit de réfléchir à cette question, comme si, selon la formule consacrée, ça fait le jeu du FN. Sauf que c'est une réalité qui existe, qui est bien plus complexe que ce que dit le Front National, et qu'il faut pouvoir aborder. Les transferts de fonds des diasporas installés en Europe vers les pays d'origine sont très importantes. Mais il faut bien comprendre que sans ça, ce serait probablement encore plus difficile dans ces pays aussi.
Tu questionnes également les représentations du monde qui sont assez différentes. Donc en fait, on en a un petit peu parlé, mais c'est la notion d'immigration légale ou illégale. Les gens dans ces pays-là n'ont pas forcément l'idée de faire quelque chose d'illégal. Pareil pour la représentation du passeur. En France, le fait d'être passeur... Enfin, on peut aller mettre un passeur au tribunal. On a un peu une notion de passeur bourreau, alors que finalement, pour les gens là-bas, c'est des facilitateurs, voire même des héros, s'ils arrivent à faire passer quelqu'un qui va ensuite envoyer de l'argent à sa famille et faire vivre toute sa famille.
Oui, c'est ça. La notion de passeur est très intéressante parce que, effectivement, en France et en Europe, on a chaque pays, on a un droit qui définit en gros ce qu'est un passeur. Quelqu'un qui est en France, quelqu'un qui aide clandestinement à franchir une frontière sans nécessairement échange d'argent. Mais si vous regardez, vous prenez le Pakistan, si vous prenez le Mali, si vous prenez l'Albanie, il n'y a rien dans le code pénal ou dans la loi qui réprimande ça. Parce qu'effectivement, le passeur est davantage perçu comme un facilitateur. Quelqu'un qui aide, ce n'est pas quelqu'un qui est bourreau. J'avais rencontré pour l'enquête un passeur au Pakistan. et qui lui était en conscience avec lui-même. Il disait plutôt non, j'aide les gens, et il décrivait même, il détaillait même son offre, entre guillemets, c'est-à-dire il disait bon, ben, par exemple, je n'envoie pas les gros pour les cacher dans les camions, dans les voitures, c'est très compliqué, ils prennent trop de place, ils marchent lentement, ils mangent beaucoup, ils boivent beaucoup d'eau, c'est pas du tout intéressant, le gros n'est pas rentable, en gros. À l'inverse, l'enfant est beaucoup plus rentable, et d'ailleurs, il faisait moitié prix pour les enfants, parce que deux enfants, vous pouvez les cacher dans la cage du gros, par exemple. Donc voilà, on était dans ce degré de cynisme, en tout cas de réflexion. Il faut comprendre aussi que, par exemple, au Pakistan, il y a énormément dans un autre type de business, d'entreprises qui ont pignon sur rue et qui prétendent vous vendre la nationalité anglaise ou française ou allemande. C'est-à-dire, vous vous présentez là-bas, vous leur donnez 700 euros en leur disant « je veux un visa d'étudiant pour aller bosser à Londres ». Cette compagnie vous dit « oui, oui, pas de souci ». Évidemment, tout est faux. Ils prennent les 700 euros, ils ferment, on ne les revoit jamais. Mais c'est un vrai business. J'ai rencontré un policier français en poste au Pakistan qui passe son temps à traquer ce genre de combine. Et c'est sans fin. Parce qu'il y en a une entreprise ferme, il y en a une autre qui rouvre, et ainsi de suite. C'est qu'on est l'état de misère économique, de misère sociale et d'insécurité dans ces pays fait que de toute façon, la migration est devenue un business en soi.
Et aussi, enfin, ce qui est intéressant dans le personnage, il existe vraiment, hein, Monsieur Amin, le passeur que tu as rencontré au Pakistan, c'est que donc en fait, il est devenu passeur parce qu'il avait étudié et voyagé à l'étranger. Et en fait, au moment où les migrations ont commencé, en fait, ce qui était intéressant, c'est de voir les gens là-bas ont très peu de notions de géographie. Par exemple, tu dis que souvent, les gens disent « je vais à Londres », en fait, comme si Londres, c'était un pays ou l'Europe entière. Enfin, il y a peu de notions des frontières. Et que du coup, en fait, M. Amin, c'est comme si c'était un organisateur de voyage, enfin, par le fait qu'il connaisse la géographie, enfin, c'est du moins au départ.
Ça, il y a une grande méconnaissance de la géographie, de ce qu'est l'Europe. Beaucoup de gens que j'ai rencontrés considèrent que Londres est un pays. Un jeune garçon que j'ai rencontré qui me disait « je vais en Angleterre, je vais voir mon frère » et je lui dis « ah, très bien, il est où ton frère ?» Il me dit « il est à Londres ». Et il me répète « je vais voir mon frère à Londres, il est à Birmingham ». Je comprenais absolument rien et on a eu un dialogue de sourds pendant quelques minutes parce que Londres, pour lui, c'était le pays, Birmingham, c'était la ville. Et il y a plein de cas comme ça. Mais j'ai moi-même été assez confus à un moment donné quand au Pakistan et même en Turquie où les gens, beaucoup de gens disent « j'ai beaucoup d'amis qui sont déjà partis en Europe, ils sont au Yunnan ». Et j'étais très surpris, parce que dans mes cours de géographie, le Yunnan, c'est une province chinoise. Et je me demandais pourquoi les gens passaient par la Chine pour aller en Europe. Et puis finalement, il s'avère que le Yunnan, en persan, ça veut dire, en arabe aussi, ça veut dire Grèce. Donc les gens sont tous bloqués en Grèce, et pas, mais vous n'entendez que parler du Yunnan en permanence. En turc, on dit Yunanistan. Donc c'est cette notion de vocabulaire est aussi très importante parce qu'on peut parfois faire des erreurs parce que problème d'approximation, de traduction, c'est très fréquent. Il y a aussi le terme de jungle aujourd'hui. Je prends souvent cet exemple, la jungle de Calais, d'où vient le terme? Si on regarde en farsi, en persan, c'est le mot pour forêt. Le mot forêt se dit jungle. Donc je pense qu'il y a 15 ans, quand les premiers Afghans ont commencé à arriver à Calais, qu'on est allé les interroger, ils ont dû nous dire, à nous journalistes, je suis caché dans la forêt, dans la jungle, et du coup c'est passé dans le langage courant aujourd'hui, on parle de la jungle de Calais, alors parler de forêt.
Dans la deuxième partie de ton livre, en fait tu as fait plusieurs séjours hein, d'ailleurs à Istanbul et un séjour à Izmir. Et ils sont particulièrement révélateurs de la complexité des parcours migratoires.
Oui, Istanbul par exemple, chaque communauté a son quartier. Les Africains ont leur quartier, les Afghans ont leur, les Syriens aussi. Et même au sein des Africains, il y a un quartier, Kumkepi, qui est plutôt africain francophone. Il y a plutôt des Sénégalais et des Ivoiriens. Il y en a d'autres comme Courtoulouche, c'est plutôt des anglophones, style ghanéen, nigérian aussi. Et voilà, et chaque communauté reste souvent dans son quartier. On essaye de ne pas trop sortir pour ne pas se faire trop contrôler par la police, même si en Turquie, les policiers turcs contrôlent très peu les migrants. Et chacun voilà, vit en vase clos sans avoir forcément conscience. Des autres communautés. Il y a sur la rive asiatique d'Istanbul, il y a tout un quartier qui est spécialisé dans la construction. Il y a plein de magasins, style Point P, le Forum du bâtiment, etc. Tous les artisans y passent le matin pour faire leurs courses de carrelage, acheter du ciment. Le long de la route, le matin, il y a des Afghans et des Syriens aussi qui se sont installés tous les matins à partir de 7h. C'est plein de monde. C'est plein de monde, ils attendent le boulot. Ils viennent travailler au noir, c'est la nouvelle mondialisation. Ils sont là, le bâtiment, j'ai tendance à dire, c'est le deuxième plus vieux métier du monde. On retrouve vraiment ces gens qui voilà, se vendent pour 20-30 euros par jour à aux commerçants turcs qui les prennent parce que c'est de la main-d'œuvre bon marché. Et on observe aussi une hiérarchie dans les communautés dans ce quartier-là. Il s'avère qu'il y a le bon trottoir et le mauvais trottoir. Le bon trottoir, c'est pour les ouvriers turcs ou kurdes, qui est le trottoir stratégiquement placé par où arrivent les voitures. Et il y a les autres trottoirs moins intéressants et sur lesquels sont relégués tous les sans-papiers. Et donc voilà, il y a aussi cette hiérarchie informelle qui s'opère et qui est loin de nos radars économiques et politiques habituels.
Mais d'ailleurs, c'est une des parties, je trouve, les plus poignantes de son livre, c'est de voir en fait comment finalement certaines personnes en Turquie et ailleurs en fait finalement profitent en fait de ces phénomènes de migratoire et de misère.
Oui, c'est très classique dans l'économie au black. De toute façon, un sans-papier, il ne vous fera jamais de problème. Il est moins cher, il peut bosser 12 heures par jour et il ne parlera jamais. Après, voilà, il y a effectivement des hiérarchies à l'intérieur de ces migrations, parce que je sais que les Africains à Istanbul ont davantage tendance à bosser dans les ateliers de maroquinerie, et eux disaient que l'arrivée des Syriens était un vrai problème, parce que les Syriens cassaient encore plus les prix, et que les Syriens étaient prêts à travailler contre juste un plat de nourriture. Alors qu'eux étaient prêts à travailler, jusque-là, les Africains travaillaient pour 20-30 euros par jour.
Tu montres un moment dans le livre, tu bois un verre ou tu es dans un restaurant et en fait ton ami afghan reconnaît que le serveur est un afghan, donc sans papier, il se tourne dans les bras et en fait tu montres, c'est assez frappant, qu'il y a deux mondes qui se côtoient. Donc il y a le monde en fait des touristes occidentaux qui viennent dépenser leur argent à Istanbul et ce que tu appelles le cinquième monde, donc qui n'est ni le tiers monde ni le quart monde, mais un monde qui est fait pour rester caché.
Oui, ce que j'ai appelé le cinquième monde dans ce livre, c'est cette nouvelle économie invisible et informelle. Je pense que c'est un peu le revers de la mondialisation actuelle économique. Et elle est particulièrement frappante dans tous les lieux touristiques aujourd'hui. À Istanbul, à Athènes aussi, mais aller à Paris, aller au Sacré-Cœur, c'est sidérant. Il y a des Coréens, des Japonais qui prennent des photos, des Bangladais juste à côté qui leur vendent des colliers de perles, et en bas des marches, c'est des Maliens et des Ivoiriens qui vendent des bracelets brésiliens. Il y a tout un concentré de mondialisation qui se retrouve entre le bas des marches du Sacré-Cœur et le haut. Et c'est assez caractéristique de... Pour moi, c'est emblématique de cette époque, de notre époque en tout cas. C'est qu'il y a une migration et à la fois des gens les plus fortunés et des gens les plus pauvres. Et que ces lieux touristiques sont assez emblématiques. Ça en est presque risible de voir, par exemple, un Ivoirien à vendre des tours Eiffel en plastique fabriquées en Chine à des Chinois. On a un condensé de notre société juste dans cet exemple-là.
Alors à Calais, tu découvres un monde assez différent, qui est celui d'un monde proche de la mafia, je pense qu'on peut dire ce mot, qui est le monde des passeurs, donc avec les différentes vagues de passeurs qui se succèdent, avec notamment les arrestations policières. Voilà, tu as assisté à des procès aussi.
Oui, les passeurs, c'est un univers assez sidérant à Calais. Alors, pour cette enquête, j'ai passé plus de temps à Boulogne-sur-Mer qu'à 30 km où se trouve le tribunal dont dépend Calais, qu'à Calais même. Mais à Calais, effectivement, il y a une... Il y a un vrai business des passeurs. Il y a notamment un parking et une zone commerciale, une zone industrielle qui s'appelle Transmark, en bordure d'autoroute. Et ce parking-là, donc c'est en gros, il y a un grand magasin qui vend de l'alcool 24 heures sur 24. Tous les routiers qui vont en Angleterre s'arrêtent là, font plein de Heineken et stationnent leur camion pour la nuit et repartent le lendemain. Et donc, il y a toute une industrie du passeur qui s'est mise en place sur ce parking depuis une bonne dizaine d'années. Pendant très longtemps, ça a été tenu par des Kurdes irakiens qui viennent d'une ville qui s'appelle Chamali. On les appelle les Cham-Chamali, ce clan-là, kurde, et qui a contrôlé très longtemps ce parking-là. Et eux étaient très organisés et faisaient monter et des Kurdes et des gens d'autres nationalités. Et puis la police aux frontières a démantelé une fois, deux fois, plusieurs fois ce réseau, ce qui fait que aux alentours des années 2010-2011, les Kurdes sont retrouvés affaiblis et des Égyptiens, des passeurs égyptiens, ont pris le relais sur ce parking. Il y a eu des affrontements entre les deux clans. Et aujourd'hui, les Chamalis ont quasiment disparu de la carte. Mais on a une situation assez sidérante où les Égyptiens prédominent, mais se sont mis d'accord avec d'autres nationalités. Ils sont mis d'accord avec d'autres nationalités, ce qui fait que chaque groupe de passeurs s'est octroyé des créneaux horaires pour accéder aux camions. Tout l'enjeu, en gros, c'est de monter dans les camions qui sont garés là, déchirer les bâches ou d'ouvrir les portes, et de faire monter les mecs à l'intérieur. Moi, je suis passé en fin de journée, une fois, il était 16h, il y avait des Afghans qui attendaient, et ils me disaient, on a jusqu'à 18h. On attend jusqu'à 18h, et à 18h, il faut qu'on dégage, parce que 18h, c'était les Égyptiens, probablement, qui revenaient, et qui, eux, ont le meilleur créneau de la nuit, quoi. Le meilleur créneau de la nuit, c'est minuit, 6h du matin. Et voilà, ils attendent, et ils se relaient, chacun, pour faire monter les gens. Et ce qui est intéressant, par exemple, dans cet exemple-là, c'est qu'en termes de récolte d'informations journalistiques, j'ai été voir ces migrants qui étaient juste dans les bosquets qui attendaient, mais j'ai eu le son de cloche de magistrats aussi, de Boulogne, le son de cloche de policiers, d'avocats, du maire de la ville où se trouve le parking, qui est une ville juste à la limite de Calais. Et c'est leurs différents points de vue qui construit cette histoire qui, moi, m'a permis de comprendre comment fonctionne, en gros, le fonctionnement sur le parking de Transmark.
Et ces passeurs, est-ce qu'ils sont sans papier également?
Alors, pour certains, oui. C'est assez fréquent. Si vous assistez aux comparutions immédiates à Boulogne-sur-Mer, souvent, il y a entre 40 et 50% des affaires qui vont concerner des passeurs. Encore une fois, on utilise le terme de passeur. C'est un mot qui fait très peur, mais il y a une grande zone de flou autour de la personnalité des passeurs. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont des migrants ou d'anciens migrants qui, pour payer leur propre passage, sont improvisés passeurs, ils font monter quelques copains dans un camion, et puis la prochaine fois, c'est eux qui monteront dans le camion. Soit ils ont été recrutés par des réseaux plus organisés, style les Cham-Chamali kurdes, qui, eux, les Cham-Chamali étaient très organisés, et pour avoir vraiment les petites mains à disposition, vont piocher dans le vivier de migrants qui veulent passer. Donc, voilà, il faut se méfier du discours des politiques qui, très souvent, pointent du doigt les passeurs. Je me rappelle d'Éric Besson, notamment, quand il était ministre de l'Intérieur en 2009, qui faisait la chasse aux passeurs à Calais. Il a rasé la jungle de l'époque. Et sur le parking de Transmark, le fonctionnement marchait toujours aussi bien.
On va un peu parler maintenant de ta méthode, de l'immersion elle-même. Donc, je ne l'ai peut-être pas dit au départ, hein, mais par exemple, quand tu étais au Pakistan, voilà, tu t'es habillée avec le vêtement traditionnel, des sandales, tu t'es fait pousser la barbe. Donc voilà, hein, mais il y a aussi eu des moments assez difficiles. Donc voilà, quels ont été les moments les plus difficiles?
Alors, au Pakistan, les gens savaient que j'étais quand même, les gens à qui je m'entretenais, savaient que j'étais français et journaliste. Par contre, quand je suis passé en Turquie, à certains moments, effectivement, j'ai prétendu être migrant pour deux situations. Pour approcher des passeurs ou pouvoir observer un peu les pratiques policières. Donc, je me suis fait passer pour migrant, notamment à Izmir, où je me suis retrouvé face à des passeurs en rencontrant des migrants qui m'ont amené à leurs passeurs. J'ai rencontré des passeurs pachtounes. J'avais pris une fausse identité d'Azérie, d'Azerbaïdjan, parce que peu de chance que les gens parlent cette langue, que les passeurs parlent cette langue. Je parlais anglais, je prétendais être quelqu'un venu d'une famille éduquée, donc j'avais été à l'université, je baragouinais un peu d'anglais. On a dialogué comme ça. Et là, c'était souvent on pose la question pourquoi faire d'immersion. On y reviendra peut-être tout à l'heure, mais là, dans ce cas précis, c'est parce que j'avais besoin de voir sans filtre vraiment l'attitude d'un passeur et le moment de la négociation, plus que la traversée en mer, ce dont je ne me sentais pas du tout le courage de le faire. Il y a d'autres journalistes qui l'ont fait et c'est super courageux. C'était vraiment de voir ce moment où on négocie en gros sa propre vie comme on négocie des carottes au marché. À combien on fixe son prix, comment on transfère l'argent, que me dit le passeur exactement pour envoyer l'argent. En l'occurrence, là, il a utilisé, ça c'est intéressant, il utilise un système qui s'appelle l'Awala, qui est un système de banque informelle qui est assez développé dans le monde indo-pakistanais et en Somalie aussi. Voilà, ça j'avais besoin de le voir et c'est en ça que l'infiltration me semblait nécessaire.
Et donc il y a eu la troisième partie de ton livre. Donc tu racontes le moment où tu avais envie de voir comment ça se passait en fait l'accueil de quelqu'un qui fait une demande d'asile. Donc en l'occurrence en Bulgarie parce que c'était la route une des routes qui était le plus empruntée au moment où tu y es passé. Et voilà, est-ce que tu peux peut-être raconter un petit peu comment ça s'est passé, comment tu t'es fait expulser de Bulgarie?
Alors, en Bulgarie, je me suis de nouveau fait passer pour migrant à la frontière avec la Turquie. Mon idée initiale, c'était de pouvoir intégrer un centre de rétention bulgare et voir comment ça se passait à l'intérieur. Sauf que les choses ne sont pas passées comme prévu du tout. J'ai passé la nuit à la Belle Étoile, côté bulgare, dans la campagne. Je me suis présenté au petit matin dans un village qui est vraiment à la frontière avec la Turquie, qui s'appelle Radovets, où je me suis fait passer pour... je pensais me faire passer pour un Syrien, et finalement, non, par un Géorgien, et puis les gens m'ont pris pour un Syrien tout de suite. Géorgien, parce que, encore une fois, c'est une langue qui est très peu parlée, ils n'ont pas l'alphabet cyrillique comme les Bulgares et la plupart des Slaves ont. Mais voilà, les gens m'ont pris pour un Arabe tout de suite. J'ai gardé cette identité, et on s'est mis à parler anglais avec la personne avec qui je me suis retrouvé en face, qui était le maire du village. Les policiers sont venus me chercher très rapidement, après une heure, et les policiers bulgares, et ce que j'avais pas anticipé, c'est que je pensais qu'ils m'emmèneraient au commissariat, je m'étais renseigné, je connaissais la procédure normalement qui suivait, sauf qu'ils m'ont pas du tout emmené au commissariat, ils m'ont mis dans leur voiture, et ils sont partis en direction inverse, direction de la Turquie. Je vous passe les détails, mais j'étais passé de main en main dans de plusieurs équipes de policiers. Je me suis retrouvé face à deux policiers qui m'ont confié à d'autres policiers qui sont arrivés en voiture et ainsi de suite. Ça a été répété plusieurs fois. Pour qu'au final, les deux derniers policiers qui me récupèrent m'enferment dans leur coffre de voiture. Une voiture banale, voiture police avec le gyrophare sur le toit, etc. Mais ils m'ont mis vraiment dans le coffre avec mon sac. On a roulé pendant 20-30 minutes, une bonne demi-heure. Et... jusqu'à ce qu'ils rouvrent le coffre, que la voiture s'arrête et qu'on se retrouve au milieu des champs, au milieu de nulle part. C'était la frontière turque. Et là, ils m'ont fait sortir du coffre, ils m'ont coupé les sangles du sac à dos que je portais avec moi pour pas que je puisse le mettre sur le dos et ils m'ont renvoyé dans les champs de maïs en me disant « dégage » et en me disant « ce que tu vois, les champs que tu vois devant toi, c'est pas la Turquie, c'est la Roumanie, casse-toi ». En me hurlant dessus, ils étaient armés. J'ai filé à travers champs et donc là effectivement j'avais aucun papier français sur moi, absolument rien. Ma seule protection, c'est que j'avais une amie qui me suivait, qui était restée de l'autre côté de la frontière, qui elle avait mes papiers, qui avait mon passeport, tous mes documents français, et on s'était mis d'accord sur le fait que je devais l'appeler dans les 5 jours après mon arrestation.
Donc cette question un petit peu d'expérience extrême de l'immersion quand même nous amène à parler peut-être un petit peu de la déontologie. Tu as écrit un autre livre en fait avant Dans la peau d'un migrant qui s'appelle Dans la peau d'un maton, qui est aussi où tu as aussi fait une pratique d'immersion, mais extrêmement différente, puisque autant dans la peau d'un migrant, tu faisais semblant d'être ce que tu n'étais pas, autant pour dans la peau d'un maton, tu as passé le concours de surveillant, de gardien de prison. Et donc, tu as fait 8 mois d'école, c'est ça, de gardien de prison. Tu as travaillé dans 2 maisons d'arrêt différentes. Et voilà, enfin, quelles sont les grosses différences entre ces 2 expériences d'immersion? Quelles sont les différentes questions déontologiques qu'elles posent, à ton avis?
Alors, si on aborde la question de l'immersion, pour moi, ça ne doit pas être le sujet en soi. L'immersion ne doit pas être le sujet en soi. Je considère qu'il faut deux conditions. Il y a 2 conditions qui me paraissent nécessaires. C'est souvent, est-ce que le sujet est d'intérêt public? On est journaliste, on a une démarche. Enfin, je considère que j'ai une démarche de citoyen. Je dois, à ma petite échelle, donner à comprendre et à informer les gens. Donc, est-ce que ça a un intérêt public? Et il faut qu'il n'y ait pas d'autres moyens d'avoir accès à cette information. En l'occurrence, sur la prison, il y a un service de communication en béton dans la pénitentiaire, ce qui fait que dès qu'on veut faire un reportage, on passe par le service de com, et qu'on a le droit de faire des reportages sur les activités de réinsertion, mais vous n'aurez jamais le droit de faire un reportage sur les conditions de travail des détenus, sur la surpopulation, sur ce genre de choses. Donc voilà, sur la prison, devenu surveillant pendant plusieurs mois parce que j'avais besoin de voir sans filtre, encore une fois, une réalité qui de toute façon nous était cachée, parce que la pénitentiaire est à la fois juge et partie, et que sans ça on n'a jamais l'occasion d'y rentrer. Sur la question des migrants, c'était vraiment les fois où je me suis passé pour migrant, c'était vraiment des cas spécifiques, ce que je disais tout à l'heure, pour observer directement de visu les pratiques policières, et pour dialoguer sans filtre avec les passeurs. Où là, on peut se le faire raconter par des migrants, on peut rencontrer aussi des passeurs, éventuellement après négociation, mais j'avais besoin de le voir, encore une fois, voilà, sans filtre, sans a priori, voir vraiment, bêtement, quelle est l'attitude des flics face à un migrant. Ça serait pas du tout passé comme ça si j'avais été embarqué avec la police bulgare, la police aux frontières bulgares pendant 1 semaine. J'aurais été avec des gens impeccables, j'imagine, droit dans leurs bottes, qui font correctement leur boulot, etc. J'aurais jamais vu un migrant mis dans le coffre à qui on coupe les sangles de son sac et en lui disant de se barrer en Roumanie. Mais juste pour terminer, pour autant, là, je pense que cette pratique ne doit pas être utilisée en permanence. J'ai fait plein de sujets, la plupart des articles que j'écris ne sont pas du tout en infiltration, parce que ça doit pas être l'infiltration ne doit pas être le cœur de votre sujet. Après le maton, on m'a proposé d'aller infiltrer des syndicats, des dockers, les dockers marseillais. Il n'y avait aucun intérêt pour moi. Enfin, il faut qu'il y ait cet intérêt public et donner à débattre et ne pas avoir accès très difficilement à l'information.
Donc au moment où on a préparé ce sujet, en fait, on t'a demandé quels étaient des livres peut-être qui t'avaient inspiré. Donc voilà, le très célèbre « Dans la peau d'un noir ». Est-ce que tu peux en dire quelques mots?
Oui, alors quand c'était avant de partir sur l'enquête sur la prison, j'étais encore en école de journalisme et j'avais déjà dans l'idée de faire l'enquête sur la prison et de passer le concours de surveillant, mais je me suis documenté et j'ai regardé un peu les livres d'infiltration qui avaient été faits auparavant. Donc il y avait celui-ci, effectivement, « Dans la peau d'un noir », qui a été écrit dans les années 50, et l'histoire d'un journaliste blanc qui s'est fait passer pour un noir dans l'Amérique sudiste des années 50. C'était une des premières, je crois, et le deuxième livre qui m'a marqué, c'est Tête de Turc de Günter Wallraff, qui est un journaliste allemand qui dans les années 80 s'est fait passer, lui, durant 2 ans, donc c'est très très long, durant 2 ans il s'est fait passer pour un immigré turc et pour aller travailler sur les chantiers et raconter comment vivaient les Turcs, qui sont une énorme diaspora là-bas.
Et en fait, dans tous les cas, le lien en fait, entre ces 2 livres et tes 2 livres aussi, c'est un petit peu de montrer en fait, des gens qui n'ont souvent pas voix au chapitre, de dénoncer un peu des inégalités, des injustices qui ne sont souvent méconnues en fait du grand public. Et en ça, c'est un acte de citoyen, en fait, comme tu dis.
Oui, je pense vraiment, il ne faut pas oublier que notre métier, c'est pas de faire du clic, c'est de produire de la pensée. Il faut pas oublier que à l'origine, le journaliste, ça reste un métier intellectuel. Le grand souci aujourd'hui, c'est qu'on a tendance à faire un travail d'ouvrier dans des ordinateurs, trop souvent, et qu'on manque de cette chair humaine, on manque de cette complexité humaine. C'est globalement, c'est pour ça que souvent je préfère travailler sous forme de livre, parce que j'ai le temps de raconter ces zones de gris. C'est jamais, y a jamais de vérité totale. Tout noir ou tout blanc, c'est toujours entre les deux. Sur les questions de migrants, par exemple, c'est très troublant. Sur la fin, je retrouve, sur la fin de mon enquête, j'ai retrouvé un Afghan que j'avais rencontré en Turquie. Il était bloqué en Allemagne. Il était passé par la France. Et il me dit, mais il n'y a que des Noirs en France. Il me dit, super troublant pour moi. Il était passé à la gare du Nord, entre deux trains. Il me dit, mais vous n'avez que des Noirs et des Arabes. Comment c'est possible? Eux, ils ne fuient pas la guerre. Moi, j'ai perdu un œil en Afghanistan. Moi, il y a vraiment la guerre dans mon pays. J'ai beau lui expliquer qu'ils avaient probablement eux aussi leur raison pour venir en France. Il n'en démordait pas. Il ne comprenait pas. Et où est la vérité là? Qui est le bon et qui est le mauvais? Je sais pas. Tout le monde l'est un peu des deux. Sur la prison, c'était aussi le cas. Et c'est en ça que voilà, le livre permet de détailler davantage certains sujets.
Oui, d'être moins manichéen que les médias qui répondent aux politiques. Et donc après la prison et les migrants, quel est ton prochain axe de travail? Est-ce que tu prépares peut-être un livre ou d'autres articles? Si tu peux nous en dire quelques mots.
Alors, il n'y aura pas du tout d'immersion dans ce que je prépare. Là, j'ai pris un peu de pause, mais je veux m'intéresser au trafic de stupéfiants dans le 93, mais vraiment dans la dimension sociale et sociétale. Je pense que c'est ça, c'est-à-dire aller comprendre les logiques entre... le démantèlement d'un trafic de stupes dans un quartier et les loyers qui sont plus payés, par exemple. Pourquoi dans certains quartiers, le ratio paiement en espèces, paiement en carte bancaire est complètement inversé par rapport à la moyenne nationale, parce que c'est lié au trafic de stupes. C'est ça. Donc je pense qu'il y a quelques articles en cours là pour la presse nationale et probablement un livre d'ici un an ou deux.
Bon, bah Arthur, merci. Donc, on a tenu notre temps et on va peut-être prendre 5 minutes de questions. Donc, en fait, je pense qu'on n'a pas de micro pour la salle. Donc, si vous parlez suffisamment fort, je vais reformuler la question ensuite.
Voilà. Tu retranscris la question?
Oui, pour le micro, oui. Voilà, en fait, la question de la subjectivité, qui est une sursubjectivité peut-être qui est amenée par le fait d'être immergé.
Alors, moi, j'ai jamais cru à l'objectivité journalistique. J'y crois toujours pas. Non, je pense qu'on peut être honnête, objectif, non. Donc, je considère qu'on est déjà subjectif, même en écrivant à la troisième personne du singulier. Simplement, il faut, ce que disent beaucoup Edwy Plenel, il faut penser contre soi-même. Donc, je sais qu'en rentrant en prison, par exemple, je pensais intuitivement écrire davantage sur les mauvaises conditions de détention, essayer de faire le point 10 ans après les rapports parlementaires. C'était un peu mon angle d'attaque. Il s'avère qu'une fois en prison, je me rends compte que bosser comme surveillant, c'est l'horreur, et que être détenu, c'est l'horreur, et que voilà, il fallait écrire sur les deux et sur l'imbrication des deux. Donc, j'assume la part de subjectivité. Je pense qu'on est tous. Il faut essayer d'écrire avec le plus d'honnêteté possible, en donnant son ressenti et en essayant de comprendre le ressenti de l'autre. On a apporté d'autres bouquins là, je fais une petite digression, de Georges Simenon, parce que c'est quelqu'un, je pense, un auteur qui a été journaliste avant de faire de la fiction, et dont l'ex libris, c'est de dire comprendre, ne pas juger. Et je pense que voilà, le journaliste, il peut faire ça. On va comprendre sans juger, que avec notre subjectivité et en essayant de... et avec notre honnêteté surtout.
Oui, monsieur.
Les pays européens.
Les pays européens.
Alors, est-ce que les pays européens ont les moyens de combattre efficacement l'immigration clandestine. Alors, je pense que déjà, juste le terme « combattre l'immigration clandestine », les États européens sont déjà hors sujet parce qu'elle va se faire. Aujourd'hui, je pense qu'on est plus dans l'ordre d'un phénomène historique que dans de l'actualité pure et dure. Vraiment, c'est une lame de fond, sans même porter de jugement moral si c'est bien ou pas l'immigration. Elle se fera, et que les réponses qu'on apporte pour le moment, en gros, plus de policiers et des murs, c'est une logique à court terme. Il y a même des policiers qui le disent en off, qui sont spécialistes de l'immigration, et qui disent en off, elle va se faire cette immigration, on peut simplement essayer de la contrôler, de l'accompagner. Et ils ont une réflexion assez intelligente, je trouve, souvent. On peut l'accompagner, on ne peut pas la stopper. C'est plus possible aujourd'hui. Il suffit de regarder, la plupart des migrants rentrent sur le territoire français par avion avec un visa de touriste de 3 mois. Le visa expire, tu restes en France. Et ça, c'est, je crois, les chiffres, c'est à peu près 2/3 d'immigration clandestine. C'est moins visible qu'un bateau qui sombre, mais numériquement, c'est bien plus important.
Peut-être une dernière question ? Oui ?
Peur, oui. Enfin, sur le cas de la police, par exemple, bulgare, là, effectivement, j'ai pas été suffisamment... Je pensais avoir balisé correctement le terrain, et de fait, je pensais pas me retrouver avec des policiers hors la loi. Et là, effectivement, c'était assez terrifiant. Et j'ai préféré laisser couler. Je me suis posé la question, est-ce que je leur dis, non, je vous ai pipoté, je suis journaliste français, et je pense que j'avais plus de risques en leur disant qu'en me faisant expulser. J'imaginais ils auraient éventuellement pu me tabasser, ce qui n'a pas été le cas. Mais voilà, donc oui, il y a toujours une part de peur. C'est aussi votre meilleure conseillère. Je pense qu'il faut faire attention et ne pas être tête brûlée. Surtout, c'est que la peur est vraiment bonne conseillère. Et il ne faut pas vouloir pousser le bouchon trop loin. Il y a un ancien journaliste qui me disait le bon journaliste, c'est pas celui qui meurt sur le terrain, c'est celui qui ramène son histoire. Et ça, il ne faut jamais l'oublier, je crois.
Bon, merci Arthur Freyer et merci à tous d'être venus. Donc, je vous donne rendez-vous le 9 mars pour une deuxième soirée de ce cycle Profession Reporter. Donc, je vous remontre le livre d'Arthur Dans la peau d'un migrant et cette séance sera podcastable à partir de la semaine prochaine. Merci beaucoup.
Merci.